Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchy.
19h18 sur RTL. L'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la documentariste Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya.
Bonsoir.
Avec Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Alain Duhamel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Carrefour donc change de direction. Le fleuron français à la peine depuis plusieurs années dégraisse pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Son nouveau PDG Alexandre Bompard a annoncé ce matin la suppression environ de 2500 emplois, un plan de sauvegarde pour les ex-DIA et près de 3 milliards d'investissements sur le numérique et le bio. Vous avez entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon sur RTL. Pourquoi faut-il en passer par des licenciements? C'est la désinvolture des puissants. Alors ce plan choc, douloureux mais nécessaire ou pas du tout? Sur les réseaux sociaux, Benoît, bonsoir.
Bonsoir. Cynisme ou pragmatisme, on hésite. En effet, le plus repris, c'est Lucas qui reproche à Carrefour de supprimer 2400 emplois tout en touchant 100 millions d'euros par an de CICE et en versant 60% de ses bénéfices en dividendes. Et ouais, c'est le fameux « en même temps » grince-ram. Il y a ceux comme Mike qui préfèrent accuser le gouvernement, responsable de tous ces licenciements déguisés. C'est lui qui permet ce désastre avec sa loi travail, dit-il. Nicolas Dupont-Aignan est d'accord, qui tweete la multiplication des plans de licenciement dont celui-ci démontre une chose. Les nouvelles procédures de la loi travail sont une véritable aubaine pour les grands groupes. C'est la porte ouverte à des plans sociaux déguisés. Puis il y a ceux comme Chiche qui soupirent que c'est hélas inévitable et malheureusement tout le monde va y passer. La robotisation, le digital vont supprimer énormément d'emplois, d'autres seront créés mais pas au même niveau. Carrefour va être en avance sur la route du non-emploi, c'est tout. Inévitable, confirme Gigi. Moi je continuerai à passer avec une caissière en vrai, en chair et en os et le jour où tout sera automatisé, j'irai dans un autre magasin là où il y a encore du personnel. Et si tout le monde fait comme moi, vous faites quoi, menace Jean-Paul. On fera pas comme toi car les caissières sont pas aimables, rétorque Nessa. Bah tant mieux, si Carrefour n'investit pas maintenant, c'est 10 fois plus de postes qui seront supprimés quand Amazon et compagnie arriveront en France, menace Assia. Mais oui, ce business model des supermarchés en train de tomber, c'est se renouveler ou mourir, lance Eric. Tu parles, ils renouvellent leurs profits, nous nos misères, soupire Man. Au lieu de se réjouir qu'une grande entreprise adopte un virage digital qui va créer de nombreux postes, on pleure sur la suppression de jobs obsolètes, comme d'hab, regrette François pour finir.
Jean-Christophe Buisson, pour positiver, il faut sacrifier des salariés?
Bah, faut sacrifier 2400 salariés sur 115 000, ce qui est quand même pas aussi monstrueux que d'autres plans sociaux qu'on a vus ces derniers mois, ces dernières années. Par ailleurs, Alexandre Bompard fait quelque chose qui aurait dû être fait depuis des années, c'est-à-dire prendre acte d'une modification en profondeur de ce marché-là, des hypermarchés qui ont été créés dans un environnement où il y avait une faible concurrence et une forte consommation. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Quand Carrefour a racheté Promodes, ils ont gardé les structures de Promodes qui était vieillotte, notamment dans les structures centrales. Mmh. Et il fait un ménage. D'abord, c'est un plan social, plan de sauvegarde d'emploi. Donc, les gens sont accompagnés. D'ailleurs, je note que les syndicats hurlent beaucoup moins que certains hommes politiques en disant, en reprochant d'abord à Alexandre Bompard de ne pas avoir été prévenu dans les formes. Mais sur le fond, ils savent très bien que c'était nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire que c'est accompagné, encore une fois, d'un immense investissement pour le bio numérique, vous l'avez dit. Donc, que des sociétés doivent se réformer à un moment donné compte tenu de l'évolution de l'économie mondiale, ça me semble la moindre des choses. Et je trouve que c'est fait plutôt dans des conditions qui sont, à mon avis, acceptables. Il faut souligner d'ailleurs la rapidité avec laquelle Alexandre Bompard est arrivé il y a 6 mois. Il a mis ce plan en action en 6 mois. De ce point de vue, il se rapproche d'ailleurs d'Emmanuel Macron, dont il est un peu de la même génération. C'est-à-dire, je prends des décisions rapides, je les mets en œuvre. Et il me semble qu'elles sont beaucoup moins douloureuses que des plans sociaux, encore une fois, qu'on a vu dans d'autres industries ces derniers mois.
J'adore quand le Figaro parle de la douleur des plans sociaux.
Je ne suis pas le Figaro, je suis Jean-Christophe Buisson.
Jean-Christophe Buisson, je me demande le jour où vous avez vraiment souffert de la douleur que provoquent des licenciements chez les autres. Moi, je trouve formidable que les salariés soient toujours, toujours la variable d'ajustement. On commence par parler de la nécessité, évidemment, de moderniser tout ça. On n'évoque en rien, je ne sais pas, que les actionnaires ou un certain nombre de gens qui gagnent très bien leur vie pourraient faire quelques sacrifices. Non, c'est toujours, toujours les salariés. Alors, permettez-moi d'abord de vous dire que ce que disent les syndicats, c'est pas seulement que la méthode a été épouvantable et qu'ils ont appris par les journaux ce plan, c'est aussi qu'ils pensent que c'est peut-être, malheureusement, l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'un nombre donné de licenciements. Eux vont jusqu'à évoquer la possibilité, et excusez-moi, je les crois plus que les licencieurs, qu'on pourrait arriver jusqu'à 10 000 licenciement.
Mais excusez-moi Gérard, mais déjà pourquoi vous les croyez plus que les licencieurs? Pourquoi parce que vous leur faites plus confiance que qu'aux patrons qui ont finalement les chiffres et qui voient... Parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui fantasment peut-être.
Mais moi, c'est une bonne question. C'est que moi, vous voyez, par exemple, je fais des choix primaires. Par exemple, quand il y a une matraque et un crâne, je suis du côté du crâne. Quand il y a un licencié et un licencieur, je suis du côté du licencié. J'ai parfois tort, vous avez raison. Mais mon sentiment
premier...
Donc
c'est la réflexion par l'émotion, quoi.
Non, mais mon sentiment premier, c'est quand même de vérifier ce qui s'est passé à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'en général, la vérité est plutôt sortie de la bouche des salariés que de leur patron. Et je terminerai... On peut en discuter deux minutes, mais en tout cas, je reprenais quand même le point que j'ai donné au début. Pourquoi est-ce toujours aux salariés de payer les pots cassés, y compris des mauvaises gestions des patrons? On évoque toujours le fait que les salariés doivent être souples, qu'il faut effectivement qu'ils acceptent de partir à droite, à gauche, etc. Moi, j'ai toujours entendu les patrons défendre leur parachute doré, défendre leurs privilèges, défendre leurs dividendes. Excusez-moi, dans ce cas précis, je sais ce que gagne M. Bompard, qui est un homme éminemment sympathique que j'ai connu quand j'étais dans une autre radio. Je sais ce qu'il gagne et je trouve simplement que la première chose qui devrait nous expliquer, et pour l'instant ça n'est pas fait, même si on parle d'accompagnement, c'est comment ces salariés-là vont-ils s'y retrouver. Moi, je crains que ce soit encore une fois les actionnaires, les grands bénéficiaires de cette restructuration. C'était modéré, Alain.
C'était un numéro d'idéologie parfaitement structuré. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont discutables. Alors, il y a la part de sentiment qui est parfaitement estimable. Il y a des précédents qui peuvent être tout à fait invoqués. L'idée de dire qu'il y a une seule variable d'ajustement,
c'est caricatural.
Mais ça n'est pas vrai, simplement. Parmi les variables d'ajustement, il y a le changement total d'orientation technologique. Ça, c'est une grosse variable d'ajustement. Parmi les variables d'ajustement, il y a les méthodes de management qui sont extrêmement différentes d'un cas à un autre. Alors, vous dites à la France.
On l'espère à la France. En tout cas, ceux qui nous écoutent.
Enfin, une partie qui l'aime bien quand même. Vous nous dites les méchants sont toujours les méchants et les gentils sont toujours les gentils. Normalement, si les procédures qui sont prévues sont respectées, bon, on va bien voir si elles le sont, mais si elles sont respectées, les salariés sont mieux défendus par ce genre de plan qu'ils ne l'étaient par les plans antérieurs. Et il me semble, je ne suis pas un spécialiste de Carrefour, mais il me semble que c'est un des principaux groupes privés français et un des principaux employeurs privés français.
C'est le principal,
un des principaux.
Je sais bien, vous savez que je suis toujours modéré dans l'expression. C'est pour ça que je dis
lâchez-vous de temps en temps. Là, contre Gérard, vous avez le droit de vous lâcher.
Non. Il faut s'assumer comme on est. Il faut des modérés et des pas modérés. Bon, pour en revenir à ce que je disais, la pire des choses aujourd'hui, puisque le modèle économique précédent est devenu archaïque. C'est dommage peut-être, mais c'est un fait. Il est devenu archaïque. Et on voit très bien que les plus grandes entreprises, on vient de le voir en Grande-Bretagne avec un constructeur gigantesque, si elle ne fait pas les choix technologiques et les choix de management, elle peut s'effondrer globalement. Et donc, si le changement de management et le changement de technologie signifie que ça permet à Carrefour de se redévelopper, c'est pour ses salariés comme pour les autres, infiniment supérieur à l'hypothèse selon laquelle on s'accrocherait à un modèle économique obsolète avec des dirigeants refusant de changer de stratégie. Vous allez sûrement trouver ça beaucoup trop nuancé.
Mais ce qu'on a fait dans l'industrie pendant ce qui a donné des plans sociaux...
Mais il suffit de comparer avec la métallurgie française. Ben voilà. On voit bien les différences de méthode et de résultats.
Alors, moi, c'est vrai que j'ai peut-être allé plus du côté du manque de modération. J'ai quand même tendance à plutôt privilégier mais donner la priorité dans mes préoccupations aux personnes qui sont dans le côté défavorable du rapport de force. Donc, il me semble quand même assez logique de s'inquiéter de la situation des salariés qui ont un rapport de force bien moindre dans le rapport qu'ils peuvent avoir avec leur patron. On a parlé de 2400 licenciements, mais il y a quand même toutes les enseignes Audia qui vont fermer et ça fait 2100 personnes qui vont perdre leur emploi également.
Dans une partie, donc qui seront reclassées par Carrefour.
On va proposer quelque chose. On ne sait pas si ça va aboutir à un reclassement de manière effective. Alors, j'entends complètement le fait qu'il faille transformer la manière dont on accède aujourd'hui aux hypermarchés. Les surfaces sont bien trop grandes par rapport à la manière dont les gens consomment aujourd'hui. Et ça, je l'entends aussi en tant que consommatrice. Maintenant, c'est vrai que j'ai le sentiment que dans ces cas-là, dans les cas de ce genre de transformation, de réforme, les arbitrages se font toujours en défaveur des salariés. Carrefour, c'est quand même une entreprise qui bénéficie du CICE. En ça, moi, je pense qu'elle doit des comptes, hein, qu'elle nous doit des comptes, puisqu'effectivement, elle est soutenue par l'État. Et puis, effectivement, je ne pense pas que les actionnaires de Carrefour seront imputés de ces changements, de ces transformations. Et encore une fois, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ce sont toujours les salariés qui doivent perdre leur emploi et pourquoi on préserve systématiquement les intérêts économiques des actionnaires.
Alain Duhamel va vous l'expliquer après la
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Faugier.
À 19h30 avec Gérard Miller, Jean-Christophe Buisson, Rokhaya Diallo et Alain Duhamel qui va donc expliquer à Rokhaya et à Gérard Miller pourquoi les actionnaires, finalement, doivent toujours s'engraisser sur le dos donc, des salariés qu'on licencie.
C'est une tradition un peu. Sors de ce corps Mélenchon.
J'étais trop près de Mélenchon tout à l'heure.
Bon, alors d'abord, le statut des actionnaires est extrêmement variable d'une période à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Vous savez qu'il y a des périodes qui sont très bonnes pour eux et d'autres qui sont très mauvaises. Mais surtout, le problème des actionnaires en France, c'est qu'on est en panne d'actionnaires. C'est-à-dire que de trouver des actionnaires français, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, de trouver des actionnaires étrangers, c'est très facile, mais ça n'est pas ce qui est souhaité. Et alors, sur
chez Carrefour, si je peux me permettre, il y a un actionnaire étranger, hein, le Brésilien.
Non, je parlais en général. Bon. Et alors, l'autre chose, en ce qui concerne les salariés, bon, c'est évident que tous les salariés qui sont touchés, pour eux, c'est épouvantable comme expérience. Ils ont l'espoir qu'on leur proposera autre chose, peut-être
c'est
d'autres
formations. C'est pas formations. La question, là, Alain, me permets de vous dire, c'est pas la question qu'on vous a posée. Est-ce que je peux me permettre juste pour vous aider à répondre?
Si je ne le disais pas avant de répondre, vous me le poseriez ensuite. Voilà. Donc je vous anticipe.
Est-ce que je peux me permettre, pour vous aider à répondre, de vous faire remarquer que jamais les dividendes n'ont été aussi importants en France. Jamais les bénéfices que touchent les actionnaires n'ont été aussi importants en France.
C'est absolument vrai qu'en ce moment, les dividendes sont globalement élevés. C'est absolument vrai qu'il y a 10 ans, ça n'était pas du tout le cas. C'est absolument vrai qu'on a du mal à trouver des gens en France qui investissent dans la bourse. À l'époque où Balladur avait créé, avait privatisé, lancé l'actionnariat populaire, ça se précipitait.
Bah d'ailleurs, aujourd'hui, on a entendu hier La République En Marche et les mesures de La République En Marche qui visent donc à demander aux petits épargnants de déplacer leur épargne vers l'investissement dans les PME, parce que ça manque.
Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, naturellement, je reprends ce que je disais, naturellement, le sort des salariés qui est en cause implique des sentiments, une formation, des tentatives, etc. Bien sûr. Mais l'essentiel, c'est que l'entreprise, non seulement demeure viable, mais que l'entreprise ait une chance de s'adapter à une autre conjoncture, à d'autres considérations, à d'autres contraintes. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et là, ça compte et ça touche tous les autres salariés.
Mais si je peux me permettre, pour vous aider peut-être, Alain, si je peux me permettre.
Vous trouvez que c'était pas clair ?
Non, mais par exemple, j'imagine que les actionnaires qui sont donc pointés du doigt par Rokhaya et Gérard Miller, ceux qui vont mettre de leur poche les 3 milliards d'investissements dans le bio et dans le numérique. Il faut bien investir dans le bio et le numérique. C'est pas les salariés qui vont le faire, c'est les actionnaires que vous pointez du doigt, Gérard Miller, ce soir. On parle de 3 milliards.
Mais pourquoi vous le dites comme ça et pas vous dites que ceux qui vont travailler, ce seront les travailleurs, les salariés et pas les actionnaires ? Pourquoi la question est très simple.
Parce que la transformation de l'entreprise va passer par l'investissement de ses actionnaires.
Ne faites pas naïf, Margot, parce que vous ne l'êtes pas. Pourquoi est-ce que le capital est en règle générale infiniment mieux rémunéré que le travail ? Est-ce que c'est être ultra-gauchiste que de poser cette question ?
Et puis la question du bio, il y a aussi une stratégie de communication. Quand Carrefour explique qu'ils vont collaborer avec WWF, la Fondation pour la Terre, c'est aussi ce qu'on appelle du greenwashing, qui consiste à donner l'impression qu'on est
une entreprise sympathique. Mais les 3 milliards,
c'est le changement de modèle économique. Ça, c'est une réalité.
Si vous voulez repartir à l'origine du monde,
c'est même ce qu'il est défini.
C'est pas une entreprise qui est déficitaire non plus. On parle pas d'une entreprise qui est en grande difficulté.
C'est la difficulté, c'est quand il faut changer de modèle économique, il faut le faire avant d'être en grande difficulté.
Bien sûr, mais
rappelez-vous la sidérurgie.
C'est le béaba de la gestion.
Et ce ne sont pas les salariés qui vont investir l'argent nécessaire aussi. Ça a été fait dans les années 70 et c'était un échec pour mettre 3 milliards qui ne vient pas de l'État mais du privé. Il faut des actionnaires pour le faire et c'est une bonne chose. Et moi, je voudrais juste qu'on accorde un tout petit peu de crédit à Alexandre Bompard, qui a fait à la FNAC, a quand même aussi réussi à redresser la FNAC, alors que le modèle de la FNAC était en décrépitude totale. Il a même racheté Darty, donc on peut lui accorder cette idée que s'il réussit son coup, peut-être que dans quelques mois, on dira que Carrefour va embaucher l'équivalent des gens qui sont partis dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, et de ne pas toujours partir du principe que le patronat n'est là que pour s'engraisser et pour ruiner les salariés à son propre profit, que parfois il y a aussi des actionnaires, des patrons qui font ça en espérant développer leur entreprise et donc à terme créer des emplois.
Et qu'on peut avoir plus de sympathie pour un entrepreneur qui essaye de renouveler un modèle et de préserver, de développer une entreprise que pour l'entrepreneur qui rate son coup et qui arrive à une catastrophe globale qui touche tout le monde.
La suite au prochain numéro. Dans un instant, on parle de la colère des matons.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
19h37 sur RTL. Deuxième sujet dans Refait le monde avec Jean-Christophe Buisson-Roquet, Diallo, Gérard Miller et Alain Duhamel. Les syndicats de surveillants de prison ont donc claqué la porte des négociations avec la ministre de la Justice cet après-midi. Ils menacent désormais de bloquer demain donc les extractions, notamment celle de Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, jugé demain. Pour eux, le gouvernement n'a pas pris conscience de l'ampleur du plus long mouvement de grève depuis 25 ans. Un peu plus tôt, pourtant, Édouard Philippe s'était dit prêt à examiner des mesures indemnitaires. Sa ministre reste, elle, campée sur sa proposition de recruter 1100 emplois supplémentaires. Alors, Nicole Belloubet, est-elle à la hauteur? Les prisons, scandale français? Point d'interrogation sur les réseaux sociaux, Benoît.
Ben, tous d'accord sur le constat, pour une fois, ça ne va pas. Pas d'accord sur les solutions. Plus d'argent pour les agents n'enlèvera en rien la dureté extrême. Réunion dans des prisons périmées. Le gouvernement propose des rustines alors qu'il faudrait changer les pneus, soupire Eric. Il faut dire qu'avec un budget indigne et même encore réduit, la justice est mal barrée. Les preuves politiques ne concernent pas que Belloubet, mais tout le gouvernement, grince d'âne. Alors comment faire? Il y a ceux comme Arthur qui pensent qu'il faut travailler aux peines alternatives et désengorger notre système carcéral. Et ceux comme Manuel Valls qui réclament en ligne 15 000 places de prison supplémentaires. Rini pense que nos cellules avec frigo, télé, ordinateur, plaque chauffante, ventilateur, repas bio, médoc gratuit et bientôt téléphone donnent envie d'y revenir. Le retour au bagne libérerait des places, lâche même SB. Mimi rétorque, je vous propose une visite en détention, j'y vais demain chez les mineurs. Pas de télé, pas de plaque ou pour 52 euros, pas d'ordinateur, le même slip pendant des semaines. Et vous savez quoi? Pas de promenade, dite scolarité. Va falloir un peu plus que de l'argent, je crois. Et puis vu que le gouvernement a montré avec Notre-Dame-des-Landes qu'il savait céder, les gardiens de prison auraient bien tort de se calmer, écrit Ourson pour finir.
Rocaïa, par quel bout vous prenez le problème? Un problème déjà de recrutement, puisque c'est de plus en plus dur peut-être déjà de recruter des gardiens de prison?
Il y a un problème de fond qui vient d'être souligné, c'est le problème de la surpopulation carcérale. Ça, c'est un problème qui est structurel, qui est lié à la manière dont effectivement on sanctionne certaines peines, à l'obsolescence des prisons. Il y a une demande des surveillants qui demandent des espaces qui soient aménagés pour leur permettre d'effectuer leur travail correctement. Une dévalorisation aussi de la fonction de surveillant de prison, qui est une fonction qui est extrêmement stigmatisée. Il demande aussi à changer de catégorie de C à B dans la fonction publique. Des fonctions qui sont très mal payées, qui sont extrêmement difficiles. Le fait qu'il y ait de plus en plus de prisonniers qui soient en voie de radicalisation ou radicalisés, donc qui nécessitent une surveillance particulière, et c'est un problème qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Donc ça nécessite aussi des moyens de surveillance et de formation, hein, des surveillants particuliers. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la question centrale, en tout cas de cette crise, c'est la question du bien-être, ou en l'occurrence du mal-être des surveillants de prison. Là, ils sont vraiment en position de souffrance, et c'est pour moi la préoccupation première de la justice.
Et Nicole Belloubet, Jean-Christophe Buisson, la garde des Sceaux, est à la hauteur, selon vous? Elle semble dépassée.
Elle semble dépassée, elle a mis beaucoup de temps à prendre la mesure de l'importance de ce mouvement, qui est en plus assez populaire, je crois, parce que je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour évidemment soutenir ce mouvement, à se dire que ces salaires de la peur que sont ceux des surveillants qui gagnent 1400 euros par mois face à une population qui est effectivement de plus en plus violente, pas seulement radicalisée, mais de plus en plus violente physiquement et de moins en moins respectueuse de l'autorité que ces gens-là représentent, comme les professeurs qui peuvent se faire gifler en classe, comme les policiers et les pompiers qui se prennent des caillasses sur la tête quand ils interviennent. Les surveillants de prison ne sont plus respectés et les gens qui ne les respectent pas ne sont pas punis comme ils le devraient. Et d'une certaine manière, dans certaines prisons, ce sont les prisonniers qui dirigent la prison, qui ont pris le pouvoir parce que lorsqu'on veut les punir, on ne peut pas. Donc ça, c'est évident. Et quant à Mme Belloubet, je pense qu'elle a, comme le gouvernement Macron, elle est rattrapée par quelque chose qui n'avait pas été anticipé. Le gouvernement pensait que le premier gros conflit qu'ils auraient et qui mettrait de la violence dans les rapports avec l'opposition, ce serait Notre-Dame-des-Landes. Ils ont passé ce cap, pour l'instant plutôt bien. On va voir comment se passera l'évacuation, mais il n'y a pas eu de violence jusqu'à maintenant. Et là, ils sont rattrapés par quelque chose qui s'appelle effectivement la violence. N'oublions pas que ce mouvement est né de quoi ? De surveillants qui s'étaient fait agresser violemment par un islamiste radical, et d'autres incidents ont eu lieu. Et c'est cette violence à laquelle est confronté le gouvernement qui n'avait pas l'habitude de cette violence. Il y avait la violence verbale de nos amis de la France insoumise, il y avait une certaine violence verbale de l'extrême droite aussi, mais la violence qui a été celle des CRS repoussant les matons, de celle de quitter en plein milieu d'une négociation la table, la violence évidemment des agressions, le gouvernement, j'ai le sentiment, n'avait pas prévu cette violence et ne sait pas très bien comment se comporter. Jusqu'à maintenant, il marchait un peu sur l'eau, on avait l'impression qu'il y avait une société agréable, harmonieuse qui était en train de se créer avec Emmanuel Macron, et d'un seul coup, ils sont face à quelque chose.
Donc ça dépasse même le cas de la prison. C'est comment ce gouvernement-là peut
être... C'est la notion de violence qui apparaît dans ce gouvernement qui, depuis 6 mois, n'est pas confronté à une réelle violence. Encore une fois, la France insoumise ayant raté ce qu'elle a essayé en septembre-octobre de faire une rentrée sociale.
La France insoumise,
j'ai envie de
la chercher, pas une violence physique.
Certainement pas.
Il y a des discours de Mélenchon pendant cet été qui annonçaient des défilés, des grandes manifestations.
C'est légal. La manifestation est légale, comme la grève.
C'est une violence visuelle, alors.
Là, c'est un peu plus sortir dans la rue.
En masse. Beaucoup plus violent les éditos du Figaro que je lis chaque jour. Beaucoup plus violent.
Petit chat.
sur les.
Écoutez, je crois qu'on peut être tous d'accord au moins sur un point, c'est qu'on demande beaucoup trop aux gardiens de prison, comme d'ailleurs on demande beaucoup trop aux policiers. C'est-à-dire cette société qu'on pourrait quand même vaguement qualifiée d'injuste, réussit à avoir en première ligne un certain nombre de gens, que ce soit les policiers ou que ce soit les surveillants de prison, qui du coup sont confrontés à tout ce que la société n'arrive pas effectivement à gérer. Récemment, dans l'émission de Laurent Ruquier, il y avait un responsable syndical qui rappelait, de surveillants qui rappelaient à juste titre qu'on a fermé tellement de lits en psychiatrie que se retrouvent en prison toute une série de gens qui ne devraient pas être là, mais être soignés, un certain nombre de malades mentaux, clairement, qui ont peut-être commis effectivement un certain nombre de choses qui sont délictueuses, mais qui ne devraient pas être en prison. Néanmoins, donc, on demande beaucoup trop aux prisonniers. Moi, ma crainte...
Aux gardiens de prison.
Aux gardiens de prison, c'est un lapsus. Moi, ma crainte,
qui sont les mêmes prisonniers, pour vous, les gardiens de prison, en fait. Le lapsus, il est là, je le surligne. Les gardiens de prison sont même prisonniers,
oui,
en fait.
Oui, absolument, très juste. Très bonne interprétation, professeur Freud. Moi, ma crainte, c'est ce que j'ai eu l'occasion de souligner justement lorsque j'ai dialogué avec ce surveillant, c'est que progressivement, on arrive vers le système américain. Là, pour le coup, je touche mon ami du Figaro. Aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, grosso modo, pour donner un chiffre, j'adore donner des chiffres là-dessus, sur les États-Unis, il y a à peu près 5% de la population mondiale. Et vous savez combien il y a de prisonniers par rapport à la population mondiale ? 25% des prisonniers se trouvent aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis enferment quasiment 1% de leur population adulte. Vous ne le diriez pas d'une dictature, mais vous pouvez le dire d'une démocratie. Ma crainte, c'est qu'on arrive vers le système américain, c'est-à-dire qu'on privatise les prisons, alors que c'est manifestement un renforcement de l'État qu'il faut souhaiter. Ceux qui disent toujours moins d'État, moins d'État, moins d'État, ben une des conséquences, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons.
Pourquoi vous m'avez touché pour dire ça ? J'ai pas compris.
Parce que je pense que vous êtes toujours le premier à dire Venezuela et Cuba, et rarement États-Unis. Et moi, je me permets de vous rappeler qu'il y a plus de prisonniers aux États-Unis qu'en Chine et en Russie.
Vous me supposez pro-américain ? Je crois que vous me trompiez.
Alain. Vous soupçonnez d'être libéral.
Je voudrais d'abord sur ce que vient de dire Gérard, c'est vrai que le pourcentage, mais ça on le sait bien sûr, que le pourcentage des détenus aux États-Unis est un pourcentage record. Mais il comparait avec les dictatures, dans les dictatures c'est beaucoup plus élevé parce que c'est l'ensemble de la population qui en réalité est dans une prison collective. C'est le propre des dictatures, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite.
Très bien.
Bon, alors maintenant, qui est un problème de prison français, c'est une évidence, un malheur et une honte depuis une génération. Ce qui est très choquant, c'est que d'un gouvernement à l'autre, d'une alternance à l'autre, et avec quelquefois des gardes des Sceaux extraordinairement généreux et d'autres fois des gardes des Sceaux extrêmement répressifs, de toute façon, le problème des prisons en France a été doublement sacrifié. Il a été sacrifié parce qu'on s'est toujours refusé, et moi, mon interprétation, à tort ou à raison, c'est que parce qu'on a un fond tellement jacobin-régalien que l'idée de faire des efforts pour les prisons, c'est toujours considéré comme la dernière chose, la dernière priorité de toutes. Donc, on a un système carcéral qui s'est terriblement dégradé. Et d'autre part, on n'a pas fait non plus les efforts au bénéfice du personnel pénitentiaire. Autrement dit, il y a eu, depuis 30 ans, une double dégradation et du personnel et des locaux qui entraîne une extrême nervosité chez des détenus qui sont eux-mêmes plus violents qu'ils ne l'étaient auparavant. Mmh. Vous aviez raison de dire qu'à par ailleurs, beaucoup de détenus qui relèvent de la psychiatrie, ils n'en sont pas moins extraordinairement dangereux là où ils sont en prison, comme ils le seraient s'ils étaient dans un asile psychiatrique. Il n'y a pas les moyens de les surveiller et de les empêcher de succomber à leur violence maladive.
Allez, on change de sujet dans un instant, juste vous donner un rendez-vous, puisque demain c'est Rachida Dati qui sera l'invitée d'Elisabeth Martichoux, ex-garde des Sceaux, qui d'ailleurs a fait une visite en prison, je crois, aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'elle dira demain à Elisabeth à 7h45, son regard sur la crise des prisons. Dans un instant, un grand oral pour le bac.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Dernier sujet dans On refait le monde à 19h50 sur RTL avec Gérard Miller, Okaïa Diallo, Jean-Christophe Bisson et Alain Duhamel. 210 ans, c'est l'âge idéal pour se refaire une beauté. Non, Jean-Michel Blanquer présentera demain la réforme du fameux baccalauréat créé en 1808 par Napoléon. Parmi les propositions du rapport de Pierre Mathiot, ex-directeur de Sciences Po Lille, figure donc la suppression des séries L, S, ES, remplacées par des modules, ou encore l'introduction d'un grand oral de 30 minutes qui compterait pour 15% de la note finale. Alors, ce nouveau, vous mettez les félicitations ou avertissements à ce nouveau bac sur les réseaux sociaux, Benoît ?
J'aurais été terrifié à 18 ans devant un jury de 3 personnes, mais pourquoi pas, écrit James, alors que Matt s'énerve. Comment un type tout seul peut décider de nous pondre un truc qui va s'imposer comme d'hab à tous, dans seul but de faire des économies ? Et quel accompagnement concret pour les enseignants s'inquiètent au bac ? Quel budget pour accompagner cette transformation ? C'est bien de vouloir plus de concertation, de réunion pour les élèves, mais sur quel créneau horaire ? Bref, je crains qu'on ne veuille aller trop vite. C'est aussi ce qui inquiète Siki. On ne réfléchit sans doute pas assez sur la manière dont cette réforme va changer pas seulement le bac, mais tout le lycée devenu modulaire. Individualisation des parcours, possibilité promise aux élèves de pouvoir composer dès la première leur menu scolaire, etc. Très bien, il faudra un projet. C'est parce que tout le monde cherche à avoir le bac sans même savoir pourquoi faire qu'il perd de sa valeur, assure Gaspard. Mais René prévient, cette réforme menée à la hussarde et sans le moindre consensus sur les difficultés qu'elle prétend résoudre serait une faute de gouvernance aussi lourde que la bobina réforme du collège 2016 dont on attend encore qu'elle soit abandonnée, dit-il. Arnaud lui applaudit. Les Français sont nuls à l'oral par rapport aux Américains, Anglais ou Espagnols à qui l'on apprend à s'exprimer en public à l'école. Tout ce qu'on peut faire pour favoriser ça, c'est génial. Le problème, c'est les profs. Pour l'instant, ils sont formés à s'exprimer par écrit et à juger l'écrit. Tu parles, c'est la victoire des communicateurs. Ce nouveau bac, ce sera savoir parler de tout sans rien savoir, redoute Sylvie.
Bon, Benoît, je vous note trop long.
Ouais. Bon alors, Azer conclut donc. Il n'y a aucun bon système pour le bac, ni l'ancien, ni le nouveau. Je suis pour sa suppression. Voilà.
2 sur 20.
Alain. C'est vert.
Cet oral.
Le principe du grand oral.
Oui, on va rester
alors,
là-dessus.
Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je trouve que l'idée de pouvoir juger de la personnalité d'un élève et donc de la façon dont il peut s'adapter à la filière qu'il souhaite, etc., je trouve que c'est plus intelligent souvent que de corriger des copies, des QCM ou je ne sais pas quoi. Je trouve que ça permet de se rendre compte de à qui on a affaire. Donc, sur le principe, je trouve ça très bien. Comme il faut essayer d'être honnête ici. Il ne faut pas négliger le fait que ça avantagera évidemment ceux qui sortent d'un milieu social aisé par rapport aux autres. C'est inévitable parce qu'ils sont beaucoup plus habitués familialement à s'exprimer, à articuler ce qu'ils disent, à débattre. Et donc que c'est à la fois très bien pédagogiquement et sociologiquement très contestable.
On peut dire que ces gens-là ont encore plus de difficultés à maîtriser la langue française par écrit. La langue française par écrit. Ah bah, y a pas que du QCM.
Il y en a beaucoup.
Ouais, moi, je suis pas sûr, parce que les gens dont vous parlez sont parfois aussi à l'aise à l'oral et développent une personnalité qui peut s'exprimer.
Je ne dis pas que c'est vrai pour 100% de chaque catégorie de population. J'ai fait passer des oraux longs comme ça, et il y a des gens qui sont avantagés et d'autres qui sont handicapés.
Moi, j'y vois aussi un avantage, c'est que ça les prépare encore mieux à la vie professionnelle, où on passe des entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, il me semble que l'école n'est pas très bien formatrice pour ça.
C'est absolument vrai, mais on peut imaginer d'abord qu'il y aura une préparation à cette épreuve-là. Donc, on essaiera de leur apprendre certaines choses.
Bien sûr.
Ensuite. Je ne crois pas que ça effacera les différences.
Alors, Gérard Miller.
Vous ne pouvez pas être gauchiste, parce que ça va embarrasser.
Si vous l'avez
Gérard,
été un petit peu, vous l'avez été un petit peu. Est-ce que je peux juste, pour l'information de nos auditeurs, et puisque vous avez rappelé la date de naissance du bac de 110 ans, rappelez qu'à ce moment-là, c'était le bac masculin, que les filles ont dû attendre la deuxième partie du 19e siècle pour pouvoir envisager de passer le bac, et qu'il a fallu attendre les années 20 pour qu'il y ait un bac homme-femme le même. C'est assez récent.
Mais Gérard, il faut reconnaître aussi que le baccalauréat napoléonien était assez en avance par rapport au système scolaire européen.
En plus.
Et ça n'a pas empêché Marie Curie d'avoir un prix Nobel de physique et de chimie.
C'est vrai. Mais enfin bon. Alors, est-ce que je me permets de dire que je suis d'accord avec Alain, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute que ça va favoriser effectivement ceux qui viennent de milieux plus favorisés. Et en même temps, c'est l'ancien président de jury de bac et ancien universitaire prof d'université qui parle, c'est que j'ai l'impression que ce bac tel qu'il a été conçu au départ, qui est tellement angoissant pour la plupart des élèves, où tout est concentré sur une seule, pas une seule journée, mais enfin sur quelques journées, que tout ce qui peut un peu atténuer ça, qui peut un peu diluer la chose me convient. J'aime bien le contrôle continu, ouais. J'aime bien toutes ces expériences. Il y a une chose que j'ai remarquée.
Contrôle continu, malgré là aussi, ça sera noté pour le coup de façon aléatoire en fonction de
l'enseignant.
De l'enseignant, ouais.
Oui, mais enfin ça, c'est les enseignants qui notent. Moi, ce qui m'inquiète, mais alors là, je le dis juste parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'il est question d'un jury de 3 personnes et qu'une personne ne serait pas enseignante. Alors, j'ai regardé ce qu'on évoque, on dit
ça peut-être un psychanalyste.
Oui, alors si c'est quelqu'un de la société civile, comme on dit, ça me semble pas mal. Mais moi qui suis universitaire, j'ai vu arriver dans les non-enseignants un certain nombre de gens d'entreprise. Qui venaient précisément dans les universités pour essayer en quelque sorte de formater les gens aux besoins très limités, même s'ils sont importants, de leur entreprise.
De
bonne foi, on ne formate pas quelqu'un le jour du grand oral.
Non, vous avez
raison.
On le juge à son aune. Ouais. Ce qui m'inquiète. Est-ce que vous savez que les grandes entreprises.
On va laisser parler Rocaille après, hein, parce qu'elle a le bac en plus, j'imagine.
Oui, un bac ES.
ES, bravo.
Il n'existera plus.
Oui, voilà. Bon, après d'autres disparitions de bac. Non, moi je comprends ce que dit la personne sur Twitter qui dit qu'effectivement, en France, on n'est pas habitué à prendre la parole dans le cadre scolaire. Mais je crois que c'est quelque chose qui doit être corrigé tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en France, en fait, aujourd'hui, on peut être une très bonne élève sans que jamais. En enseignant, on a entendu le son de la voix de la personne en question. Ça veut dire que c'est toute la scolarité en fait qu'on n'est pas du tout incité à parler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est très mauvais en langue parce que en fait on parle jamais les langues qui sont censées être des langues vivantes qu'on apprend.
Mais donc avec ce grand oral, on va s'y préparer et donc on va devoir développer la prise de parole.
Je suis quand même attachée au caractère anonyme des copies de bac qui sont écrites. Et c'est vrai que le grand oral, c'est quand même une épreuve moi que je trouve discriminante parce que on a avec les personnes effectivement, il y a des personnes qui sont favorisées socialement, donc qui ont l'habitude de prendre la parole face à des personnes et de soutenir des sujets sur une longue durée. Et puis après, il y a tout un tas de signaux, en fait, sociaux qui sont envoyés par une manière de se vêtir, par un accent d'un quartier, par une manière de se... Il y a des choses, en fait, qui peuvent aussi influencer la manière dont on va juger quelqu'un face à nous.
On peut se dire que ça peut jouer positivement.
Mixé avec, justement, le contrôle continu.
Moi, je suis un peu...
Parce que les professeurs...
Et puis, il y a des gens qui sont timides, enfin, qui sont très intelligents, mais qui sont intimidés, qui peuvent perdre leurs moyens.
Ils auront eu des bonnes notes, ceux-là.
Oui, mais les profs comptent aussi pour 15%. Donc, moi, je crois vraiment qu'il faut favoriser la prise de parole, mais il faut que ce soit conçu dès l'école primaire.
À partir du moment où il y aurait une épreuve tellement importante et d'une demi-heure, etc., évidemment, il y aura une formation qui sera donnée avant.
On évoque des heures de préparation.
Oui, bien sûr.
Mais
ça n'efface pas tout.
Merci à tous les quatre. Alain Diamel, Rocaille Diallo, Gérard Miller, Jean-Christophe Buisson. Dans un instant, les dernières infos avec Céline Landreau, le flash de 20h. Et ensuite, ce sera Jacques Pradel pour l'heure du crime. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire ce soir de votre émission, Jacques.
Eh bien, nous revenons avec mes invités dans quelques instants sur la personnalité hors norme de Patricia Dagorn, surnommée, vous savez, la veuve noire de la Riviera.
Ah oui, bien sûr, oui.
Elle a été condamnée à 22 ans de réclusion par les assises de Nice jeudi dernier. Et jusqu'au bout, elle a clamé son innocence et ses avocats avaient plaidé l'acquittement. On va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça.
Très bien, après le flash de 20h, à tout de suite, Jacques.
À tout de suite.